Bonjour, aujourd'hui, les grandes peurs alimentaires. Les hommes n'ont pas attendu la vache folle ou les OGM pour se méfier de ce qu'ils mangent. Les peurs alimentaires sont aussi vieilles que le monde et d'autant plus grandes qu'elles concernent des produits de tous les jours. Le pain, la viande, le lait, les fruits, les légumes ou l'eau, sans lesquels on ne peut vivre, mais à cause desquels on a craint pendant des siècles de tomber malade ou de mourir. On comprend dès lors la crainte, le dégoût et la terreur provoquées parfois par les aliments et la volonté d'en codifier très tôt la production, le transport et la conservation. Il fallait empêcher ces maladies qui ont autrefois décimé des populations entières. Le mal des ardents, la brucellose, la pélagre, le botulisme, le charbon et le choléra. Mais comme on ignorait alors l'existence des microbes et des bactéries, il fallait bien trouver des responsables. C'était les aliments et ceux qui pouvaient les avoir empoisonnés.
Qu'est-ce qu'ils ont assommé comme ça?
C'est pour appeler le docteur. Il est parti face à tourner, mais nous, depuis ce matin, on a au moins 5 malades dans le village. C'est à cause de l'eau, elle a tourné dans les puits.
J'ai froid.
Vous étiez là, dans le village?
Oui.
Il y a des malades?
Non, des morts, il y a des morts partout.
Vous les avez touchés?
Touchés, non, j'ai voulu les...
Restez là, bougez pas.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est le choléra, mon vieux, le morbus asiatique. Le plus beau débarquement de choléra qu'on ait jamais vu.
Comment ça se fait que ça aille si vite?
C'est la faute des tanneurs, des curés, des juifs. Ah, le choléra est une saloperie, mais le reste est une saloperie encore pire.
Je suis...
Je sais, les empoisonneurs de Fontaine, vous êtes le troisième depuis hier. Ça les occupe.
À l'empoisonneur ! Là ! L'empoisonneur !
Qu'est-ce que t'as mis dans l'eau, fouille-le ?
Brûlez ton poison !
Regarde dans le sac, c'est là qu'il a pris !
Madeleine Ferrière, bonjour.
Bonjour.
Je viens d'écrire au Seuil une histoire passionnante des grandes peurs alimentaires depuis le Moyen-Âge. Ce qui est effrayant, on vient de l'entendre dans cet extrait du Hussard sur le toit, c'est que ces grandes épidémies, comme on en ignorait les causes, eh bien, immédiatement, on cherchait des responsables, des empoisonneurs, on vient de l'entendre, c'était souvent des juifs, c'était parfois des commerçants ou des boulangers.
Oui, c'est vrai que pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, je crois, la réaction, c'est, quand on ne connaît pas l'origine de la maladie, d'essayer de trouver un bouc émissaire. Et là, pour le choléra, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on parlait des puits empoisonnés, et c'est pour le choléra de 1832, mais ça aussi, c'est une accusation qu'on a entendue à propos des pestes précédentes.
Mmh. Le plus souvent, c'était effectivement des juifs qui, eux-mêmes, d'ailleurs, avaient beaucoup d'interdits alimentaires. Vous rappelez qu'il y avait évidemment les viandes cachères qui étaient imposées et les viandes interdites, les viandes taref.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on est dans une perspective alimentaire qui est accrochée à la morale et à la religion, mais aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens. Hein. Donc pour les juifs, la culture alimentaire, c'est une culture surtout vétérotestamentaire, c'est les interdits de l'Ancien Testament, tandis que les chrétiens, eux, des deux livres de la Bible, ont plutôt retenu le message du Nouveau Testament, et donc la rupture que Jésus annonce avec les anciens tabous. Mais alors, en principe donc, on devrait avoir deux cultures alimentaires complètement différentes, et l'une, la culture chrétienne qui tourne complètement le dos au tabou et à aux notions morales de souillure. Mais parfois, ça a été ma surprise en lisant certains règlements, il arrive que les deux cultures se rencontrent et se contaminent.
Alors, ce qui est surprenant aussi quand on vous lit, c'est que très tôt, on réglemente la consommation des viandes, notamment, et des viandes malades. Hein. Vous dites qu'au début du XIVe siècle, le duc de Lévis-Mirepoix avait édicté comme ça un règlement qui interdisait surtout que l'on consomme des viandes malades, et pour s'en assurer, on obligeait, au fond, les éleveurs à amener leurs animaux sur pied dans les abattoirs. Hein, ils devaient entrer vivants dans les villes.
C'est, je crois, une des premières clés pour comprendre pourquoi, pendant très longtemps, il y a eu ces abattoirs situés au centre des villes et pourquoi il y a eu toute cette circulation d'animaux qui arrivent sur pied et qui entrent sur pied dans la ville. Je crois qu'elle ne peut pas s'expliquer si on n'interprète pas ça comme une sorte de garantie sanitaire. C'est-à-dire que les gens veulent à tout prix s'assurer que l'animal ne souffre pas, qu'il ne soit pas malade, qu'il soit bien sur ses pieds. Et pour le consommateur, pendant très longtemps, au Moyen-Âge et l'Ancien Régime, c'est une garantie.
Pas tous les consommateurs. Hein. Vous rappelez aussi une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on donnait des viandes d'animaux malades à des pauvres, à des prisonniers. Il y avait, dites-vous, l'estomac des riches et l'estomac des pauvres.
Oui, c'est quelque chose qui, a priori, est peut-être un petit peu difficile à comprendre. Quand je vois, au XVIIIe siècle, un maître des victuailles, par exemple, sur le marché de Cavaillon, qui se saisit d'un jambon vert, d'un jambon pourri, et qui, dit-il, c'est écrit dans le procès-verbal, le remet au premier pauvre passant venu, je ne peux absolument pas dire que cet homme-là, ce représentant de l'hôtel de ville de Cavaillon, cherche à empoisonner le pauvre. C'est dans son esprit véritablement un acte charitable. Et je ne peux pas le comprendre, puisque d'un côté, il le saisit sur ce marché très, très surveillé par la municipalité, et de l'autre, il le donne aux pauvres. Et ça se comprend uniquement dans les représentations diététiques de l'époque. Il y a effectivement deux types d'estomac et deux types de régimes. Ce que moi, maître des victuailles appartenant par exemple à l'élite cavaillonnaise, je ne peux pas manger, le pauvre, lui, peut le manger, puisque, suivant les conceptions physiologiques de l'époque, c'est pas vraiment qu'il a un autre estomac, mais il a un genre de vie qui détermine une économie physiologique différente. Et donc, il peut digérer, il peut assimiler des choses que d'autres ne peuvent pas assimiler.
Vous venez de citer le porc, Madeleine Ferrière, c'est l'animal dont on se méfiait le plus au Moyen-Âge. Peut-être pourquoi ? Parce qu'il mangeait de n'importe quoi, en fait. C'est ça qu'on lui reprochait.
C'est très compliqué de savoir exactement ce qu'on lui reprochait. Je sais qu'il y a une peur, une phobie qui est très présente tout au long du Moyen-Âge et au XVIe siècle encore. C'est la peur de la lèpre, de la ladrerie du cochon. Donc le cochon ladre, c'est le cochon lépreux. Et le langage fait que, spontanément, on comprend bien que les gens faisaient une association entre la lèpre du cochon et la lèpre humaine. Mais mon problème, c'est que, autant cette association paraît évidente, autant le discours que j'ai pu retrouver est pauvre à ce sujet. Et je ne comprends pas trop pourquoi on faisait cette association absolument redoutable entre la lèpre du cochon, qui n'était finalement qu'une parasitose, qui est le ténia du cochon, et la lèpre humaine.
En tout cas, c'était la viande la plus consommée de l'époque, malgré cette chanson du début de la Renaissance, « Je ne mange point de porc ».
Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les peurs alimentaires.
Et c'était « Je ne mange point de porc » de Claudin de Sermizy par l'ensemble Clément Jeannequin, une chanson de la Renaissance, de l'époque d'ailleurs où on découvrait de nouveaux continents. On avait peur des produits européens, bien sûr, à l'époque, mais aussi on avait peur, la peur, dites-vous, la peur des aliments, c'est aussi la peur des produits nouveaux, comme ceux qu'avait découvert Christophe Colomb en Amérique.
Qu'est-ce que c'est que cette viande ?
De l'iguane.
Oh.
Mange.
Pourquoi pas, c'est de la cuisine d'Indien.
Mais je suis pas un Indien.
Tu sais, Christophe, je crois que Giacomo a raison. On ne peut pas vivre de maïs et de poivrons. En plus, tout pourri dans le sol avant d'être récolté.
Mes chers fils, par une chaleur intolérable, nous bâtissons la première cité du Nouveau Monde. Nous essayons de nous adapter à la nourriture des Indiens. La viande n'est plus qu'un souvenir pour nous. Mais dans moins d'une semaine, le moulin sera prêt à produire notre première farine. Bientôt, nous mangerons notre propre pain. Plus jamais je ne sous-estimerai son goût. Vous êtes dans chacune de mes pensées. Pour toujours, votre père.
C'était Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Colomb, fabriquant en Amérique des produits qu'il mangeait en Europe. En revanche, les aliments du Nouveau Monde, Madeleine Ferrière, ont mis beaucoup plus de temps à s'imposer en Europe. On s'est méfié, par exemple, de la pomme de terre pendant 3 siècles, avant qu'elle ne soit popularisée par Parmentier, par exemple, en France.
C'est un aliment nouveau. Et là, Christophe Colomb traduit bien la néophobie de son époque. La néophobie, on peut penser que c'est un réflexe naturel, génétique, que nous partageons tous. Mais la peur du neuf, elle n'était pas simplement de l'ordre de l'inné, je crois, à l'époque de Christophe Colomb, elle était aussi de l'ordre de l'acquis. C'est-à-dire que tous les enseignements diététiques disaient que ce qui est nouveau peut être potentiellement dangereux pour l'organisme humain. Et Rabelais lui-même, Rabelais qui médecin, dit attention, toute mutation dans votre régime engendre des violences, il peut provoquer des désordres. Et en fait, cette néophobie culturelle, elle a été renforcée par des expériences tristes. Bon, on mange de l'iguane, mais je suppose que l'iguane, ça n'a pas tué les conquistadors, mais ils ont mangé du manioc, sans précaution, ils en sont morts. Ça n'a fait que renforcer leur néophobie. Alors, quand la pomme de terre est arrivée sur le marché français, européen, en général, on comprend aussi qu'elle ait suscité ces mêmes réflexes de méfiance.
D'autant plus qu'elle pousse quand même sous la terre, elle est un peu suspecte pour ça. Parmentier, en plus, a la maladresse de la comparer à la mandragore. Alors évidemment, on a peur de cet aliment, du coup. La mandragore qui fait peur, hein.
Quand on lit l'histoire de la pomme de terre, qui est passionnante et en même temps extrêmement complexe, on a tendance à voir la façon dont on a refusé la pomme de terre avec mépris, en disant, mais enfin, comment se fait-il? Pendant des siècles, ils ont refusé la pomme de terre, alors qu'on sait bien que c'est un aliment particulièrement bon à manger, et s'ils l'avaient adopté plus tôt, eh bien, on n'aurait pas connu les famines terribles qu'on a connues au 18e ou au début du 19e siècle. Mais tout ça, c'est qu'on a vraiment, on se place dans une perspective téléologique, logique, et je crois qu'on est finalement assez injuste, parce que, mettons-nous à la place de Charles de Lécluse, dont je parle, c'est le premier naturaliste à avoir examiné la pomme de terre et avoir donné un avis scientifique. Charles de Lécluse a fait le premier quand il a essayé d'analyser cette taratoufle, c'est-à-dire cette sorte de truffe, et la seule chose possible pour lui, c'était d'essayer de comprendre cette chose inconnue à partir du connu, à partir de ce qu'il savait. Et la seule plante à laquelle il pouvait la comparer, c'était la mandragore. C'est-à-dire qu'il l'a tout de suite classé dans la famille des solanacées. Du point de vue scientifique, c'est vraiment une très bonne réponse. Il ne s'est pas trompé. Linné, plus tard, ratifiera ce jugement. Mais cette réponse est absolument catastrophique pour le statut alimentaire et pour l'avenir de la pomme de terre. Puisque
pourquoi
la mandragore, tout le monde le sait, c'est la plante qui sent un petit peu le soufre, c'est la plante des sorcières, elle est connue pour ses propriétés hallucinogènes. Et alors, comparer la pomme de terre à la mandragore, c'est lui fixer d'emblée un statut botanique qui était un bon statut, mais en même temps, lui donner un statut alimentaire complètement redoutable. Est-ce qu'on pouvait manger de cette tubercule pendant très longtemps, on en a douté.
Alors, Madame Ferrière, il n'y a pas que la pomme de terre qui fait peur, il y a aussi des produits que l'on connaît bien, que l'on consomme énormément en Europe, beaucoup plus d'ailleurs qu'on ne le croit, notamment le pain et le pain de seigle. C'est lui qui est responsable, dites-vous, d'une maladie qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, qui s'appelait le mal des ardents. C'était terrible, le mal des ardents.
Je ne sais pas si on l'a oublié, en tout cas dans le Sud-Est, on ne l'a pas complètement oublié. La dernière crise, c'est 1951, l'affaire du pain maudit à Pont-Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose de très longue durée, c'est vrai, même si c'est peut-être sous des formes différentes, cette fameuse gangrène provoquée par l'ergot de seigle, mais ça a sévi du Moyen-Âge, où on l'appelait mal des ardents ou feu Saint-Antoine, jusqu'à une période assez récente. Et en fait, ce qui a fait disparaître, c'est le moment où on a cultivé moins de seigle et fabriqué moins de pain de seigle.
Il y a aussi les rumeurs qui sont responsables des peurs. Par exemple, vous évoquez quelque chose de curieux, ce qu'on appelle le pain de la reine. Là, c'est une rumeur qui avait été lancée contre le pain blanc, hein, par les gens qui fabriquaient du pain noir, du pain de gonesse, et qui disaient, le pain blanc, il est fabriqué avec de la levure de bière, c'est très dangereux, faut pas en manger. On a vraiment eu peur aussi du pain de la reine, du pain blanc.
Le pain à la reine, ce pain blanc fait à la levure de bière, et c'est ça qui fait peur, qu'on le fasse avec de la levure de bière, qui est une levure inconnue par rapport au franc levain qu'on connaissait avant. Ce problème, il se pose sans doute à partir du moment où il apparaît, 1600, pain à la reine, parce que c'est la reine Marie de Médicis, et on pense que ce pain, c'est une nouvelle fabrication qui est venue, une nouvelle technique importée d'Italie. Et cette crainte, on la retrouve, mais même en plein XVIIIe siècle, puisque Parmentier a lancé aussi une croisade contre le pain fait à la levure de bière. Mais vous savez, les peurs, elles ne s'expriment pas tout le temps. Moi, j'ai vu un moment particulièrement fort, parce qu'il a été médiatisé. C'est les années 1667-1670.
Il y a une peur dont vous parlez aussi, c'est que j'étais étonné de trouver ça dans votre livre, c'est que le pain était l'aliment le plus consommé de l'époque, mais on ne se préoccupe pas seulement de sa qualité, il y a aussi sa quantité qui compte, et le fait que le pain manque, ça pouvait provoquer, vous le rappelez, des révolutions. Ce fut le cas en octobre 1789, quand les femmes de Paris sont allées à Versailles pour y chercher Louis XVI, la reine et le dauphin, qu'ils appelaient le boulanger, la boulangère et le petit mitron.
Taisez-vous ! Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain. Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur.
Allons chercher la boulangère et le boulanger et le petit mitron.
Mesdames, que puis-je pour vous?
Votre Majesté, du pain. Du pain. Pain.
Du pain. Mais vous aurez du pain. Je vous promets.
Du pain et de la farine sont en route vers Paris.
Est-ce qu'on peut dire, Madame Ferrière, qu'une famine comme celle du début de la Révolution en France, ou une pénurie de pain, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une peur alimentaire? Vous semblez dire même que c'est la plus grande des peurs qu'on ait jamais eue dans l'histoire en Europe.
C'est pas celle dont que je traite particulièrement, puisque
non, mais
je
traite en général.
Oui, mais en général, je dois bien reconnaître que c'est une évidence que la peur alimentaire majeure, c'est quand même la peur de manquer, c'est la peur de la pénurie. Et je vois moi des peurs se manifester vis-à-vis de l'aliment malsain uniquement, je dirais, comme un motif secondaire. Par exemple, l'affaire du pain à la reine que vous évoquiez tout à l'heure et dont on disait que on la voit surtout se développer dans les années 1668-1670, ça correspond véritablement à une période d'abondance frumentaire. C'est au moment où on est sûr de ne pas manquer de pain qu'on s'inquiète à ce moment-là de la qualité et des techniques de fabrication du pain. Mais sinon, quand la disette est là, ou pire, la famine, bien entendu que la peur alimentaire numéro un, celle qui prend le dessus, c'est la peur de manquer.
Alors les peurs alimentaires, c'est aussi, vous le dites, Madame Ferrière, la terreur qu'inspiraient aux éleveurs les maladies de leurs animaux. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
En XVIIe et XVIIIe siècle, les épizooties, donc les épidémies qui touchent les animaux, sont fréquentes et se répandent très vite. En 1683, par exemple, un Allemand évoque une contagion qui, dit-il, a une marche réglée, faisant environ 2000 par jour, sans épargner une seule paroisse. En face à ces phénomènes, les paysans et même les médecins se sentent démunis. « Quelles alarmes à l'annonce d'une épidémie de bestiaux qui s'avance à pas rapides !» s'exclame un médecin de Montpellier. La frayeur, le découragement s'emparent des fermiers. Ils abandonnent leurs troupeaux. Ils ont la douleur de voir périr tous leurs animaux et disperser ainsi leurs richesses. En face à ces fléaux inexplicables, une des premières réactions est souvent d'accuser le voisin, le juif ou la sorcière. En 1688, par exemple, dans la Brie, deux bergers, Nicolas et Étienne, sont inculpés au tribunal, je cite, « de maléfices sur les animaux qu'ils faisaient mourir par des matières empoisonnées qu'ils mettaient dans les lieux où ils étaient en pâturage ». Pour faire face à ces maléfices, par exemple, un almanach destiné aux bergers indique la manière pour empêcher qu'aucun sorcier ne fasse mourir leurs troupeaux. Les bergers peuvent aussi adresser une prière à Saint Blaise, grand protecteur des troupeaux. Que ni sorcier ni poison n'endommagent leur toison. Les curés des paroisses font aussi ce qu'ils peuvent. Ils organisent des bénédictions collectives de bestiaux, comme par exemple à Cavaillon en 1682. Notre prévôt a béni tous les bestiaux qu'on avait fait venir de tout le terroir. Pour les garantir d'une maladie mortelle qui leur vient de la langue, qui est contagieuse et pestilentielle, pour laquelle j'ai ordonné cette procession et 3 jours de jeûne. Mais ces méthodes ont sans doute se révèlent peu opérantes. Au début du XVIIIe siècle, une épizootie de peste venant d'Europe centrale fait en moins d'un an mourir plus de 30 000 bêtes en Italie du Nord. Un savant, un certain Giovanni Lancisi, propose alors une méthode inédite, l'abattage préventif. Si la maladie se répand, ordonne-t-il, placez immédiatement les bovins malades dans une étable isolée. Pour les bovins visiblement atteints de la maladie ou suspects de l'être, il faut les exécuter aussitôt. Mais cet abattage préventif et massif va susciter beaucoup de résistance chez les paysans. Et comme rien ne se perd, il n'hésite pas, par exemple, à manger, oui, à manger la viande de bêtes mortes de maladie. Un médecin du XVIIIe siècle le constate. Il rejette ce qu'il y a de plus gâté dans cette chair. Il lave ensuite ce qu'il croit encore mangeable avec du vinaigre, l'assaisonne de beaucoup de sel et de poivre. Ensuite, ils la font griller ou cuire en ragoût, semblable à ce qu'on appelle du bœuf mode.
Ah, écoutez, merci Stéphanie de nous avoir rendu malade à l'heure du déjeuner. Ces textes qui ont été tirés de votre livre, Malade Ferrière, c'est étonnant. L'Anchisi, par exemple, on s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle, déjà, on pense à l'abattage systématique des animaux, comme on le fait aujourd'hui.
C'est à l'occasion de l'intrusion de la grande peste bovine, la première peste bovine qui arrive en Europe dans les années 1711-1714. Et c'est vrai que c'est une peste terrible et qui a deux caractères, sa diffusion très très rapide et puis d'autre part son taux de mortalité énorme. Et elle a beaucoup fait parler d'elle, elle a mobilisé beaucoup d'intellectuels. Mais le seul qui essayait de donner des solutions pratiques, c'est l'Anchisi, effectivement, le médecin du pape.
Il y a aussi l'utilisation, on l'a entendu avec le bœuf mode ou les plats mijotés, de la cuisson pour tuer en fait les germes. Ce qu'il y a d'extraordinaire au fond, c'est que dès cette époque, on attache beaucoup d'importance aux plats mijotés très longuement et on déteste, et on a d'ailleurs toujours détesté, on s'est toujours méfié des nourritures crues, Madame Ferrière.
Oui, ça c'est une constante hein, dans les précautions culinaires, c'est de faire bien cuire. Et la France est particulièrement, me semble-t-il, restée attachée à ces précautions. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, à cause de ce qu'on pourrait penser être une sorte d'arriération diététique dans les ménages populaires français, on a été finalement relativement protégé de certaines maladies, comme par exemple la trichinose du porc qui sévissait en Allemagne, alors qu'en France, il y a eu pratiquement pas de cas. Je suppose que le fait de bien cuire la viande de porc ou de la manger uniquement en salaison est une des raisons qui fait qu'elle a moins sévi.
C'était en les cuisant très longuement qu'on pasteurisait déjà les animaux sans le savoir, avant même que Pasteur ne donne son nom à une méthode qui est employée systématiquement aujourd'hui.
Voilà, messieurs, à quelles conditions le vin et la bière sont les plus saines et les plus hygiéniques des boissons.
Le verre à soin ? Les poules, les moutons, la bière, la rage et maintenant le vin. Vous passez vite du coq à l'âne, Pasteur.
Contentez-vous du succès de votre pasteurisation auprès des laitiers et des épiciers. Les médecins n'ont que faire de vos doctrines. Fichez-leur la paix.
Bonjour, monsieur Pasteur.
Tenez,
c'est pour vous.
Pour moi ?
Merci, monsieur.
Bière pasteurisée.
Je la boirai à votre santé.
Prenez votre temps, monsieur Conservois.
On aurait pu croire, Madeleine Ferrière, qu'après Pasteur, les peurs alimentaires disparaissent. Or, pas du tout. Vous dites qu'elles continuent d'exister, mais que ce ne sont plus les mêmes depuis la fin du 19e et aujourd'hui.
Oui, parce qu'il me semble qu'un des paramètres essentiels pour comprendre ces peurs, c'est la distance qui sépare le mangeur de ce qu'il mange. Et on entre avec l'industrialisation, avec les importations de, par exemple, de viande à longue distance de l'autre côté de l'Atlantique. On entre dans un système où l'approvisionnement devient extraordinairement complexe à comprendre par le consommateur. On sait plus ce qu'on mange. Et à partir du moment où on sait plus ce qu'on mange, on doute, c'est ce qui fait naître l'inquiétude.
Oui. D'où peut-être aujourd'hui, par exemple, le retour à des produits naturels. On se méfiait, par exemple, dites-vous, des conserves, on se méfiait des métaux qui conservaient les conserves ou dans lesquels on cuisinait les conserves. Il y a le fameux vert de gris du cuivre qui a fait peur pendant longtemps. Aujourd'hui, ce retour à un produit naturel, au fond, c'est une réaction contre des peurs actuelles.
Je crois qu'il s'est manifesté très tôt cette volonté de retour à la nature. Mais vous savez, c'est extraordinairement complexe parce que le naturel, pour Olivier de Serres, quand il fait des conserves, c'est d'ajouter du vert pour faire que les cornichons, par exemple, en conserve, restent bien verts. Alors qu'aujourd'hui, on aurait tendance à penser que le naturel, c'est au contraire le produit dans lequel l'homme ne doit rien ajouter. Et là, la limite entre le naturel et l'artificiel, c'est quelque chose d'extraordinairement mouvant. Et il semble que c'est au moment où les conserves industrielles sont apparues qu'à ce moment-là, on est arrivé à cette définition du naturel qui est la nôtre aujourd'hui et qui va jouer contre les conserves industrielles.
Est-ce que vous croyez, Madeleine Ferrière, qu'un jour on cessera d'avoir peur de ce que l'on mange ?
Je crois que la peur, c'est pas quelque chose qui vient directement de l'aliment, c'est quelque chose qui vient directement de l'imagination des individus. Et donc, on a une capacité à avoir peur. Je crois pas qu'elle soit un jour inassouvie.
Merci, Madame Ferrière. Je recommande votre remarquable histoire des peurs alimentaires qui vient d'être publiée au Seuil. Et puis, à lire également un livre qui va sortir très bientôt, Histoire et identité alimentaire en Europe, de Martin Bruegel à Bruno Lariot, à paraître chez Hachette. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, tous disponibles en cassette vidéo: Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau, inspiré de l'œuvre de Giono, Christophe Colomb de Ridley Scott, La Révolution française de Robert Enrico, enfin le téléfilm Pasteur de Luc Béraud, avec dans le rôle de Pasteur un formidable comédien qui vient de disparaître, Bernard Fresson. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Dimitri Gronoff et Émilie Couette. Documentation, Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Cette émission fut diffusée la première fois le 8 novembre 2002. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Pierre Larroux